Bonjour et bienvenue à l'épisode 141 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de vos organisations. Notre expert en matière de révolution numérique, Matthew Cohen, s'est récemment rendu à deux conférences d'experts aux États-Unis et nous voulons savoir ce qu'il trame. Nous sommes toutes et tous des utilisateurs assidus d'Internet, mais combien d'entre nous comprenons vraiment ce qui se passe derrière la scène? De par ma formation et ma pratique professionnelle, je ne regarde pas un avion de la même manière que le commun des mortels. Eh bien, c'est la même chose pour les experts en informatique. Et puisque la pratique de Matthew s'oriente de plus en plus vers les questions de cybersécurité, et quand des organisations prestigieuses l'invitent à venir présenter et contribuer à leurs conférences, c'est qu'il se passe quelque chose d'important pour nous. En plus de le questionner sur ces conférences, nous en profitons pour continuer d'assouvir notre curiosité en lui posant des questions sur l'intelligence artificielle qui semble avancer à des pas de géant. Bonne écoute! Matthew Cohen, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes 13, 47, 66, 96 ou 122, a fondé Digital Futures en Martinique où il est basé depuis plus d'une décennie pour aider ses clients à décortiquer la transformation numérique. Matthew a plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication. Digital Futures aide les entreprises des Caraïbes à développer et à mettre en œuvre leur stratégie de transformation numérique. Matthew est également l'auteur de la lettre d'information « The Future is Digital », une excellente lecture qui parle du numérique avec une perspective d'affaires, de management et de stratégie. Il a aussi récemment publié un rapport exhaustif sur l'état des infrastructures numériques dans la Caraïbe. Bonjour Matthew.
Bonjour Jean-François, comment ça va?
Ça va très bien. Matthew, tu es allé à deux conférences aux USA récemment. Non pas que San Diego soit une destination inintéressante en octobre, mais ça doit être suffisamment important pour que tu fasses le long déplacement de Fort-de-France à San Diego. Commençons par la conférence ARIN, A-R-I-N. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est?
Oui, en fait, ARIN, en fait, c'est une organisation qui est un registre d'Internet. En fait, on a 5 registres Internet régionaux, donc RIR. ARIN fait partie de ce groupement en fait de registres qui gère les adresses IP dans la continental Amérique, donc Amérique du Nord et puis une partie de la Caraïbe, dans la grosse partie de la Caraïbe.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Donc, ils gèrent les adresses IP, c'est-à-dire que, bon, dans un réseau local, on va dire qu'on a une adresse IP qu'on peut utiliser pour connecter sur le réseau et par la suite l'Internet. Mais toutes les organisations qui sont présentes sur l'Internet doivent avoir un ou plusieurs adresses Internet. Et en fait, c'est ARIN qui gère cette distribution des adresses IP, soit pour les revendeurs, soit pour les organisations type Google, Microsoft, etc., etc., ou soit pour des brokers, en fait, qui vendent, qui revendent, qui mettent à disposition les adresses IP, donc les plages, pour être capable de connecter sur l'Internet. Voilà. Donc, c'est très important.
Et quand ils font une conférence, c'est pour parler de quoi? Qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as appris? Quels sont les éléments, les faits saillants de cette conférence de ton point de vue?
En fait, ARIN, on va dire pour la base, en fait, une obligation d'avoir des politiques d'usage et de l'utilisation des adresses IP. Et donc, pour ça, il y a un document, en fait, qui est créé. Ça, colloquialement, on va dire ça le NERPM. Le NERPM, en fait, c'est le Network Resource Policy Manual. Donc, c'est un document, en fait, qui décrit comment les adresses IP peuvent être allouées et comment ça peut être utilisé, tout ça. Et en fait, on a parlé, en gros, des politiques autour de ça. Donc, c'est une conférence qui se fait plusieurs fois dans l'année, deux fois dans l'année, si je ne me trompe pas. Et c'est là, on a des propositions de changement ou des choses techniques qui changent, qui fait que la politique doit être modifiée. Et donc, on discute de tout ça. Et puis, finalement, certaines politiques soient votées et donc implémentées par la suite, ou bien rejetées pour X nombre de raisons. Mais c'est un community qui est complètement ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui a un intérêt pour ça peuvent participer et donner leur voix. Et donc, en termes de gouvernance, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est très, très, très ouvert. Et moi, en tant que personne qui a quand même une expérience informatique depuis très longtemps, qui n'a pas une expérience directe sur la gouvernance d'Internet, a été accueilli, mais très, très, très ouvertement avec avec une possibilité effectivement que je puisse en fait donner mon avis, et mon avis était aussi valable que les gens qui sont experts depuis des trentaines d'années aussi. Donc ça, je trouvais ça très intéressant.
Et pour ma propre curiosité, qui paye pour ce service-là? Est-ce que c'est nos fournisseurs d'accès Internet qui rémunèrent l'association ou qui payent pour ces... Parce que ce que tu nous décris, hein, quelque part, c'est quelque chose de... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est ubiquitous. Hein? On ne le voit pas. On a tous une, voire plusieurs adresses IP. J'ai de la difficulté à savoir qui paye pour que j'ai, moi, une adresse IP.
En fait, Arin, c'est pas une association proprement dite. En fait, c'est une organisation avec un but commercial dans un sens. Hein. Et les ressources, en fait, donc ce qui est en stock, en fait, c'est les adresses IP. Et donc, ils vendent les adresses IP, en gros. D'accord. Donc, l'adresse IP a une valeur sur le marché. Et d'ailleurs, les grosses questions en ce moment, c'est autour de l'IPv4 et puis l'IPv6. Et l'IPv6 qui a du mal, en fait, à être 100% déployé, on va dire ça comme ça, qui fait qu'on a une énorme restriction sur la disponibilité des adresses IPv4. Ce qui fait que la valeur d'un IPv4 augmente. Jusqu'à, il y aura un point de bascule probablement avec un IPv6 qui devient de plus en plus ubiquitous, qui fait que la valeur de IPv4 va chuter, puis l'IPv6 va augmenter, etc., etc. Donc, c'est, il faut voir ça un petit peu comme un entrepôt des adresses IP. Voilà.
D'accord. C'est passionnant de voir un peu toute la mécanique qu'il y a derrière ce que nous prenons pour acquis. On voit tout le monde, je reviens d'une tournée en Asie et ils sont tous dans leur téléphone dans le métro. pas que c'est très différent de l'Europe, mais vraiment, vraiment la tête dans leur téléphone. Et donc, autrement dit, il y a tout plein de petites adresses IP qui sont là, qui ont été achetées en quelque part. C'est très intéressant. L'autre conférence que tu as été voir, c'est NANOG. Qu'est-ce que c'est NANOG, N-A-N-O-G?
Alors, NANOG, en fait, c'est le North American Network Operators Group. Et en fait, Arin profite du fait qu'il y a 3 conférences par an NANOG qui rassemblent tous les opérateurs d'Amérique du Nord. Donc, les opérateurs, en fait, ce sont les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi... les grosses sociétés comme Meta, comme Google, etc., etc., qui gèrent des réseaux qui sont extrêmement complexes, voire importants pour le fonctionnement de l'Internet. Et en fait, il y a des conférences, il y a des échanges, il y a des informations. J'ai fait partie, par exemple, d'une présentation qui était fascinante sur le démantèlement d'un réseau, un réseau de spam, par exemple. Je peux pas en dire plus parce que c'était confidentiel pour uniquement les participants, mais bon, ça, super fascinant. On va toucher peut-être à quelques mots tout à l'heure là-dessus, mais ces conférences, en fait, ce sont les choses qui donnent la possibilité de tous les experts à échanger. Donc, on a eu une présentation, par exemple, avec Meta, qui parlait d'une problématique qu'ils avaient eue sur leur réseau. En pensant de faire quelque chose bien, en fait, ils ont cassé quelque chose et ça a créé un cycle de réparation et puis ils ont rattrapé, ils ont par la suite amélioré. Et donc, eux, ils partagent des informations à d'autres opérateurs dans la zone, disant que voilà, on a fait ça, voici où on s'est planté, voilà la solution, voilà comment éviter dans le futur. Donc, en fait, c'est un échange de knowledge qui est formidable. Et en plus, je dis ça, En plus, moi, je suis un consultant indépendant. Je suis pas un opérateur d'Internet, mais encore ouais. accueilli avec les bras ouverts, mais de façon bluffante parfois. C'était super, super, super intéressant.
Tu me parles d'un risque de sécurité pour l'Internet. Quel est l'état des RIR et qu'est-ce qui se passe derrière ça en ce moment?
Alors, en fait, j'ai dit qu'il y a les 5 RIR, donc le Regional Internet Registry. Donc, on a oui. ARIN, LACNIC. Donc, LACNIC, c'est Latin Amérique. Oui. Donc, il y a oui. APNIC, donc ça, c'est Asie-Pacifique. Il y a RIPE, oui. qui est Europe et tout ce qui est russe, etc. Et puis, il y a AFRINIC. Oui. Donc, AFRINIC, en fait, c'est le RIR pour Afrique, avec okay. certains pays dans l'océan Indien aussi. Okay. Le problème en ce moment, c'est AFRINIC, en fait, est dans un cycle de difficultés avec les procès qui fait que AFRINIC n'est pas fonctionnel. Proprement dit.
Oh.
Il y a un staff, en fait, qui travaille. Donc, en fait, il y a des choses, il y a des opérations qui se font de façon quotidienne. Donc, des personnes qui travaillent de façon bien. Sauf que, oui. légalement parlant, on est dans une situation assez délicate. La problématique autour de ça, c'est qu'il y a un fort risque d'une fuite, en fait, de contrôle sur un nombre d'adresses IP qui fait que ces adresses IP peuvent être utilisées pour des raisons plus néfastes que pour des raisons légitimes.
Oui.
On connaît très, très, très bien, il y a certains acteurs au niveau d'État qui aimerait mener des campagnes de cyber security, cyber attaque envers oui. d'autres États. S'ils ont un accès à une plage d'adresses IP, par exemple, qui n'est pas proprement gérée, c'est un énorme risque. En fait, c'est ça. Et le problème, c'est que en termes de gouvernance, en fait, les RIR n'ont pas encore, et ça c'est à la débat aussi, une structure entre eux pour dire que si un fait faillite, comment les autres vont mettre en place quelque chose pour justement protéger et sécuriser les opérations par la suite. J'ai parlé un petit peu des problèmes, le démantèlement d'un réseau spam. En fait, c'est une relation avec ce qui s'est passé en Afrique, en fait. C'est ça que je voulais dire.
D'accord.
D'accord. À l'heure. Et donc, c'est quand même les choses super importantes et super délicates. Et c'est pour ça, en fait, je fais très attention les mots que j'emploie pour pas être dans le collimateur, parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait être très grave. Donc, je cite personne, je cite aucun pays, bien évidemment, mais des risques. Et voilà. Donc, les RIR en ce moment travaillent avec AFRINIC pour essayer de continuer les choses, mais légalement parlant, c'est compliqué, et c'est en fait tout ça se passe dans les corps d'appel à Mauritius. Donc en fait et là il y a des grosses questions autour de la gouvernance, les lois, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Donc en fait c'est très flou, et ça fait un peu peur pour le moment, voilà.
ouais, je comprends qu'un gros poisson, disons, pourrait faire beaucoup de pression sur un petit pays comme Maurice, où il y a essentiellement de la taille de... Enfin, c'est peut-être un peu plus gros que la Martinique, là,
mais c'est ça, exactement.
Pas très gros. Et ça pourrait être intéressant. Continuons sur cette question de cybersécurité. Quoi de neuf dans ce secteur-là? Je vois qu'on en parle de plus en plus dans les médias, entre guillemets, dits traditionnels. Donc, qu'est-ce que tu vois à la fois du côté technique et du côté de tes clients? Et quel genre de conseils tu leur donnes? Comment ça évolue? Est-ce que tu vois leur maturité en matière de cybersécurité évoluer? Parle-nous un peu de ces questions-là.
C'est super intéressant, parce qu'en fait, le conseil que je peux donner à toutes les organisations, et surtout les petites entreprises, en fait, c'est prendre ça au sérieux. Je pense que il y a une lacune de compréhension des effets qui sont parfois graves pour l'organisation, mais ça pourrait être grave pour la communauté autour, en fait. Je pense que en termes de conseils, c'est effectivement commencer d'auditer sérieusement, de mettre en place des recommandations au plus vite. Peut-être par rapport à la problématique d'un marché qui est assez étroite, mais petit aussi, avec pas beaucoup de moyens, voir comment vous pouvez mutualiser un certain nombre de démarches avec la communauté autour, parce que ça pourrait débloquer un petit peu la problématique de coût, parce que effectivement, c'est assez coûteux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a vu jusqu'à présent quelques annonces dans la Caraïbe qu'il y a eu quelques attaques, mais on voit une accélération énorme en ce moment. Et on a eu pour nous, les gros poissons, en fait, qui étaient pêchés de façon très grave. La Martinique, par exemple, la collectivité territoriale de Martinique, en fait, était assujettie d'une attaque ransomware qui a crypté toutes les données. Je sais pas si les gens savent comment ça fonctionne, mais en gros, on a une attaque qui se passe, c'est complètement inaperçu, et pendant ce temps-là, les attaqueurs exfiltrent les données. Donc, on prend les données. Et une fois qu'on est satisfait ou on a suffisamment de données, c'est à ce moment-là qu'on va cliquer pour crypter les données. Et c'est à ce moment-là que la société devient, compréhensible qu'ils étaient attaqués. Sauf que l'attaque a probablement démarré plusieurs mois en amont. Le temps pour exfiltrer les données. Donc, Costa Rica, par exemple, était hacké. Il y a plus de 600 gigaoctets de données qui baladent sur l'Internet maintenant. Les données santé, les données sécurité sociale, les données personnelles, mais très, 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 on va dire, personnelles. Par exemple, les problématiques d'handicap, tout un tas de choses. Tout ça, ça balade pour le moment. Et en fait, on voit de plus en plus de ces incidents dans la Caraïbe. Et avant, la Caraïbe pensait qu'on était un peu éloigné, donc trop petit. Nous sommes des petits poissons, donc on ne va pas manger bien, en fait, avec ces poissons-là. La réalité, en fait, c'est que avant, les attaquants cherchaient le gros poisson pour le gros gain. Aujourd'hui, on a automatisé pas mal de systèmes. D'ailleurs, on peut même parler de ransomware as a service. On a automatisé ces attaques et donc on peut attaquer des milliers de petites sociétés en même temps. Chacun qui va peut-être payer une rançon de quelques milliers de dollars, si j'ai une centaine et chaque fois je demande 1000 dollars, ça fait 100 000 dollars. Voilà, même si j'ai attaqué 10 000 personnes, 10 000 organisations, mais au moins 1 000 à payer sur les 10 000, donc c'est une ratio à peu près correcte, qui fait, c'est que j'ai quand même un gros gain. Donc le ransomware as a service, en fait, c'est une nouveauté des quelques années. On sait software as a service, il suffit d'ouvrir la page web, cliquer dessus, et puis on a Office 365, et puis voilà, on fonctionne. Ransomware, c'est exactement la même chose. On peut choisir la cible, on peut envoyer la demande et le site, donc le cible est attaqué, tout simplement. Et parfois, c'est pour une dépense de $0. Et en fait, on va juste payer une commission sur les gains réels. Donc, pour rien, on est capable d'attaquer n'importe qui sans dépenser $1. Et puis, on peut même toucher un peu d'argent derrière. Voilà, tout simplement. Donc, bon, on ne va pas toucher beaucoup, mais eux, ils vont prendre 70, 75% ou 80%, mais au moins, voilà. Et donc, ça incentivise. Donc, le changement d'incentive est là et c'est palpable. Donc, c'est plus les grosses organisations qui veulent attaquer, organisations de malware, qui veulent attaquer une cible bien spécifique comme le CIA ou bien le gouvernement de la France ou le système santé à Costa Rica, etc., etc. C'est tout et n'importe quoi, tout est bon, que tu sois un seul personne ou tu as 10 millions de personnes qui travaillent chez toi, tu es la cible aujourd'hui. Et ça a complètement changé la donne. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important d'auditer et commencer de fermer. Faites en sorte que c'est plus difficile d'entrer chez toi par rapport à une autre organisation qui fait que on va privilégier le plus facile, en tout cas. C'est triste à dire ça, mais c'est une réalité. Voilà.
Aussi, je pense que tu as suivi le premier Developer Day d'OpenAI avant de rentrer dans le psychodrame là, de la gouvernance d'OpenAI. Mais dans ce Developer Day, qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce que tu as trouvé de remarquable dans cette conférence-là?
Je trouve franchement que je sais pas, en fait, tout le bruit autour de Artificial General Intelligence, donc intelligence artificielle générale. Je concentre sur les LLM comme ChatGPT. Ce sont les moteurs qui sont très efficaces, qui ont beaucoup de promesses, qui ont beaucoup de problématiques et beaucoup de failles aussi, beaucoup de défaillances de temps en temps. Sauf que là, ce qu'on commence de voir, c'est qu'il y a une opportunité pour des utilisateurs lambda qui n'ont pas d'expérience technique à créer en fait un chatbot qui est plutôt ciblé sur une opération bien spécifique. Une opération qui va peut-être faire gagner quelques heures par mois dans le quotidien. Mais au moins, si par exemple je suis en boîte de consulting et je réponds aux appels d'offres, je peux créer un chatbot qui est capable de lire le CCP, donc le cahier des clauses particulières, ou le CCTP, donc clause technique particulière, et générer en fait une réponse par rapport à tout le knowledge qu'on a dans notre société. Déjà, par rapport à l'historique, par rapport à tous les anciens CCTP et nos réponses, ça pourrait faire une sacrée gain de temps. Bien évidemment, je dis toujours, il faut pas éviter l'étape humaine à la fin pour tamponner, pour dire, vérifier que, voilà, bien sûr. Comme j'ai dit, vous êtes l'expert. Hein. Même si on a une voiture qui sait conduire un peu automatique, la responsable, c'est toujours le conducteur. Donc, c'est toujours la même chose avec les personnes dans les entreprises. Mais cette possibilité, ça m'a beaucoup intrigué. Je pense que c'est un très, très, très intéressant next step par rapport à ce qu'on peut faire avec un chatbot basique, ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant aussi. Dans l'espace de quelques mois, on est parti d'une machine, mais phénoménale, incroyable, c'est de la science-fiction à quelque chose qui est basique aujourd'hui. Et là, on dit que ChatGPT, très bien, voilà, Bing Chat, tout ça, très bien, mais c'est assez basique, quoi. Et ça s'est passé dans une espèce de quelques mois de quelque chose de fantastique à basique. Et là, on va un peu plus loin avec cette réflexion et cette implémentation et ça m'intéresse énormément. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne dans les prochains mois, en fait.
Tu parlais aussi de Microsoft. Alors, qu'est-ce que Microsoft fait dans la... On les voit, là. Ils ont essayé de tout de suite de prendre l'ancien CEO, l'ancien futur actuel CEO de OpenAI. On n'ira pas là. Qu'est-ce que Microsoft est en train de faire de ce côté-là? On entend parler de Bard, on entend parler de ChatGPT et de tout un ensemble de petits opérateurs, mais Microsoft semble absent. Qu'est-ce qu'ils font?
Non, pas du tout, en fait. Complètement l'opposé, en fait. Ils ont sorti assez rapidement Bing Chat, qui était renommé justement dans la conférence récente. Voilà, j'ai oublié le nom. Bon, ça va revenir. Ils ont parlé récemment de renommer ça Copilot. Donc, en fait, ils ont compris l'utilité. Je trouve que le nom Copilot est mieux qu'un LLM ou bien une intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose qui nous aide, qui est à côté de nous, qui nous augmente ou qui nous fournisse quelque chose de façon plus rapide, etc. Mais nous, on reste en contrôle toujours. Et donc, en fait, Microsoft a fait... Alors, mis à part les investissements, donc ils ont les investissements pour faire en sorte que ChatGPT et dans tous les modèles, donc DALL-E, etc., etc., de OpenAI, tournent sur l'infrastructure Azure. Donc, tout ça, ça tourne sur Azure. Donc, déjà, il y a un client garanti chez Microsoft là-dessus. Même si Microsoft fournit des bornes d'utilisation à un plafond assez exceptionnel, l'estimation que j'ai vue, c'était 5 milliards de dollars sur plusieurs années. Donc, c'est quand même important. Ils ont aussi 5 milliards de dollars en investissement pour le fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est les estimations que j'ai eues. OK? Maintenant, Microsoft avec cet accord a accès à toutes les propriétés intellectuelles. Le fait qu'ils ont cette propriété intellectuelle leur donne la possibilité d'intégrer ça directement dans toutes les applications, ce qu'on appelle les line of business. Donc, tout ce qui est Word, Excel, Teams, même les logiciels comme les CRM et d'autres applications bien spécifiques, qui fait que maintenant, cette capacité n'est plus une capacité satellite, c'est une capacité intégrée de base. Donc, on peut ouvrir Word et Word sera capable de nous écrire à partir de nos propres données et nos propres entraînements, donc les données en interne, une réponse d'un appel d'offres ou bien le début d'une réponse appel d'offres. Donc, c'est super intéressant dans ce sens-là parce qu'en fait, Microsoft, évidemment, en concurrence avec d'autres systèmes de productivité, a quand même un panel d'applications et des données dans les sociétés qui est plus large. Et le fait que c'est plus large leur donne l'opportunité d'utiliser ces données-là pour justement entraîner les modèles de façon très spécifique pour une entreprise. Et donc, ça va toucher le life cycle d'un employé de bout en bout. Il entre dans la société, il sera onboardé plus facilement parce que les LLM va donner des informations. Il va travailler plus facilement parce que les LLM va lui augmenter sa capacité quotidienne. Et même le offboarding, ça va être utilisé justement pour alimenter le onboarding de la prochaine personne qui revient. Donc, en fait, c'est un cycle. Le cycle de vie dans une entreprise sera augmenté par rapport à tout ça. Donc, c'est super, super intéressant, je trouve.
Ma dernière question du côté de l'intelligence artificielle, la transcription automatique et la traduction aussi automatique sont en voie de commoditisation, excusez-moi, c'est pas le bon mot, mais becoming a commodity. Quoi d'autre irait dans cette direction que nous, entre guillemets, grand public, utilisons ou nous, dirigeants d'entreprise, utilisons, entre guillemets, encore au quotidien, comme tu disais, de manière soit as a service ou comme bolt-on à quelque chose d'autre. Mais quoi d'autre qui est en train de subir ce traitement-là, encore une fois, comme tu dis, à des vitesses qui sont assez impressionnantes?
Ah oui, absolument. Les transcriptions, et donc je sépare transcription et traduction, OK? Donc les transcriptions, en fait, ce sont les choses utilisées dans un bon sens pourraient être très inclusives pour un personnel, des personnes qui sont peut-être malentendantes, par exemple. On peut imaginer qu'une transcription qui a un taux de précision très élevé va être utilisé pour justement aider ces personnes à être beaucoup plus inclus dans toute la vie entrepreneuriale. Maintenant, la transcription est aussi une manière, et moi je vois de plus en plus des possibilités. Par exemple, là, on va faire une réunion, par exemple, ensemble dans un bureau. Soit on va amener un micro adapté, ou bien on va utiliser uniquement le téléphone. On va enregistrer la conversation, et automatiquement cette conversation sera transcrite. Par une intelligence artificielle. Et par la suite, si on pousse cette réflexion plus loin avec les workflows automatiques, ça va créer un compte-rendu, envoyer le compte-rendu à tout le monde de façon automatique et aussi commencer de suggérer les tâches à accomplir pour chacun des personnes qui ont dit, mardi prochain, j'aurai le rapport de finances, machin, machin. Et puis, en fait, cette tâche-là sera ajouter, soit automatique ou soit avec le consentement des personnes, dans leur liste de tâches. Donc, en fait, ce sera, ça sera à partir d'une basique capacité de comprendre de façon orale et d'en transcrire en texte, il y a plein de possibilités en termes de, d'organisation qui et de gestion de projet par la suite. Voilà.
J'étais stupéfait quand j'ai demandé à Alban Pelechko, d'Yoga, là, qui a été dans un podcast précédent, d'essayer de faire les notes d'un épisode de notre podcast avec sa solution de transcription de vidéo ou d'audio. Et c'était remarquablement proche de ce que nous produisons dans nos notes au quotidien. Donc, autrement dit, l'heure ou les deux heures que je mets à faire ça, essentiellement, la machine met 10 secondes pour le faire en réalité maintenant et d'une très, très bonne qualité. Autrement dit,
absolument.
C'est un facteur de 10 pour moi, une économie de travail de 10.
Absolument. Mais moi, je vois ça, ça devient de plus en plus intégré dans les line of business applications, en fait. C'est ça que je dis. Au lieu d'être quelque chose à part, ça sera carrément intégré. Et donc, en termes d'interface, par exemple, sur les LLM, comme ChatGPT et Bard et autres, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a remarqué un petit peu. Moi, j'ai quand même quelques années dans l'informatique. Je me souviens les premiers ordinateurs. On démarre l'ordinateur et on est en face d'un écran complètement vide, noir, avec un prompt qui clignote. Et donc, il faut taper une commande pour avoir une réponse. Et là, en fait, on a fait une marche arrière en termes d'interface, je trouve, avec ça, parce qu'en fait, il faut provoquer quelque chose. Donc, il faut savoir comment parler ChatGPT, en fait, pour démarrer une réponse. Et je pense que le futur sera, ça sera beaucoup plus intégré. Donc, on aura notre moment, en fait, en gros, de graphical user interface. Donc, on va basculer dans le monde quand on tape quelque chose, une commande comme un ancien ordinateur, vers les ordinateurs qu'on a aujourd'hui avec une interface graphique où autre chose va augmenter en termes vocal, vision, etc., etc., pour justement faciliter l'usage et l'utilisation quotidien. Et je pense qu'on va vers ça assez rapidement.
Une petite dernière question. Je me souviens d'avoir été très impressionné par Chaos Monkey de Netflix pour tester leur infrastructure opérationnelle. Je reviens à mon dirigeant de PME, comme tu dis, soit dans le tissu caribéen ou peu importe, une petite PME entre 0 et 20 employés. Quoi d'autre pour une organisation ou une PME normale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à tester la robustesse de notre infrastructure informatique?
D'abord, je veux dire, il faut le tester parce que si c'est pas vous qui testez votre infrastructure, ça sera quelqu'un d'autre et ça sera pour les raisons négatives. Et ça va venir. C'est sûr et certain. C'est plus une question de si, c'est une question de quand, tout simplement.
Ouais. Exact.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, effectivement, c'est faire à mon sens en fait parce que cette offre est assez manquant sur le marché de façon que ça soit abordable. Donc, je pense que toutes les dirigeants peuvent, par les associations, ils sont dedans, peuvent commencer de faire un bruit, commencer de faire les demandes et commencer de provoquer, en fait, les entreprises qui sont habilitées de faire ça, de se mettre en accord pour justement mutualiser au maximum. Parce que j'ai dit, Microsoft, ils peuvent sortir le chéquier pour faire un pen testing, aucun problème. Donc, ils peuvent faire ça tous les jours. Même si ça coûte quelques millions chaque fois, ils peuvent faire. Petite entreprise, en fait, qui est connectée sur l'Internet, a besoin d'être auditée et aussi testée avec, en gros, les mêmes compétences qu'on a besoin pour pénétrer les grosses organisations. Sauf qu'ils sont petits et ils n'ont pas les moyens. Et donc, en fait, il y a un vrai écart entre l'offre et la demande pour le moment. Et je pense que si eux, ils peuvent regrouper et mettre la pression, ça pourrait changer quelque chose. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout le monde va en bénéficier par la suite. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des incidents, des attaques cyber qui traversent les petites structures dans les petites zones comme la Caraïbe et dans les îles Océan Indien et puis ailleurs. C'est-à-dire que si c'est dur de pénétrer le mur Amérique du Nord, Par contre, j'ai un mur qui est plus facile en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou dans la Caraïbe. Je vais pénétrer là et puis je vais remonter. Alors, en fait, c'est comme ça, ça se passe.
Ah ouais. Ah
voilà. Oui. Et donc, c'est pour ça, en fait, chacun a presque une obligation aujourd'hui de prendre ça au sérieux et puis commencer de vraiment, comme j'ai dit, mettre en accord tous ensemble pour que tout le monde en bénéficie. C'est le seul moyen que je vois aujourd'hui parce que c'est hors de prix pour les petites entreprises aujourd'hui.
Merci beaucoup, Matthew, pour ta vision très précieuse de cette révolution numérique qui est très complexe, qui est de plus en plus difficile à comprendre dans tous les éléments. Mais ta capacité et ton talent pour le rendre concret et palatable, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour le non-initié, la transformation numérique pour les nuls. Je pense que ce serait peut-être un bon bouquin pour toi, ça.
J'aurais bien aimé, effectivement. C'est toujours avec plaisir. Donc, moi, j'aime bien partager tout ce que je fais parce que je passe mon temps à rechercher, à essayer de comprendre parce que, effectivement, c'est complexe, c'est compliqué. Ça change. C'est-à-dire que je fais quelque chose et 2 mois, en fait, ce n'est plus valable. Donc, il faut refaire pas mal de choses.
Faut tout refaire.
Et ça me passionne et puis j'adore partager. Donc, merci encore pour cette opportunité.
Merci beaucoup, Matthew. À très bientôt.
À bientôt. Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. 2 choses que je retiens et que je veux citer. La première, ce n'est plus une question de si, mais une question de quand on parle de cybersécurité et ransomware as a service. 2 découvertes importantes. Je vous propose d'ailleurs d'aller changer tout de suite vos mots de passe et de vérifier vos pare-feux. Cela étant dit, je vous invite surtout à visiter notre site Internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 141. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée et n'oubliez pas, nous avons maintenant une chaîne YouTube où vous retrouverez différents clips de nos épisodes au www.youtube.com/inteliaconsulting. Bonne semaine et à très bientôt.